Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, bon baiser de Bercy.
9 millions de foyers fiscaux touchent à partir d'aujourd'hui une avance de crédit, annonce ce matin sur RTL de Gérald Darmanin. On va y revenir évidemment dans un instant, mais tout d'abord, je vous emmène dans un cabinet médical un peu particulier. Vous allez mesurer les progrès de l'intelligence artificielle. Au CHU de Bordeaux, les patients peuvent désormais se confier à un médecin virtuel, une innovation saluée par la très prestigieuse revue américaine Nature. C'est une première mondiale. Denis Grandjou l'a testée pour nous.
Une salle au 13e étage de l'hôpital Pellegrin. Une chaise, un bureau et un écran qui s'allume. Julia apparaît, tailleur gris, t-shirt blanc. La consultation commence.
Bonjour, cela doit vous paraître inhabituel de parler à cet écran. Rassurez-vous, pour moi aussi, c'est assez inhabituel d'être une psychiatre virtuelle. Mais je vous assure que je vais prendre en compte attentivement votre état. Et je serai très à l'écoute de vos réponses.
Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est dans la médecine du futur.
Le professeur Pierre-Philippe est à la base de ce projet. Il est spécialiste des addictions.
On a conçu ce programme interdisciplinaire grâce au mariage de compétences en informatique émotionnelle et en psychologie et en médecine.
Le médecin virtuel cligne des yeux et adopte des attitudes totalement humaines. La consultation dure 35 minutes.
Avez-vous fumé une ou plusieurs cigarettes au cours des 12 derniers mois ?
On a pas mal de patients en fait, qui ont éclaté en sanglots devant les machines, alors que quand nous on les voyait en consultation, les mêmes patients, ils avaient un degré de retenue, et on leur a demandé pourquoi en fait, ils avaient cette émotivité-là devant les machines, et ils nous ont répondu que les machines ne les jugeant pas, ils étaient beaucoup plus à même d'exprimer des sentiments intimes. Le futur numérique nous apporte des choses parfois très surprenantes.
Et le service du professeur Philippe procède au tout dernier réglage pour lancer une application. D'ici quelques semaines, 150 patients test seront connectés avec un médecin virtuel dans toute la Nouvelle-Aquitaine.
Je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Vous pouvez maintenant poser la tablette. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt peut-être.
Reportage de Denis Grandjou. Sachez quand même que le dernier mot revient à un médecin en chair et en os. Le but de ces consultations virtuelles étant évidemment de désengorger les hôpitaux.
RTL Matin, 8h03.
Et donc, bonne nouvelle pour 9 millions de foyers fiscaux.
Leur impôt sur le revenu va baisser. Un geste acté dans la dernière loi de finances et qui s'applique donc dès cette année grâce au prélèvement à la source. Si vous êtes concerné, vous avez dû recevoir un mail. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, était ce matin l'invité de RTL. Il a annoncé le versement dès aujourd'hui de l'avance du crédit d'impôt pour ceux qui emploient une nounou, par exemple, 628 euros en moyenne, 9 millions de foyers concernés. Bonjour Christophe Ponzio.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a une démarche à faire pour toucher cet argent ou est-ce que ça tombe tout seul sur le compte en banque ?
Alors non, vous n'avez rien à faire. Cette avance de 60% des crédits d'impôt est automatique. Elle est basée sur votre déclaration de revenus 2018 remplie au printemps dernier. Et c'est par virement que la somme vous est versée dès aujourd'hui. Le fisc ne vous demandera rien, aucune coordonnée bancaire, puisqu'avec le prélèvement à la source, il doit déjà les avoir. Attention donc aux arnaques, aux faux SMS et aux faux mails.
Vous avez un exemple ?
Bah oui, si vous déclarez par exemple des heures de ménage et de repassage pour 2000 euros, eh bien votre crédit d'impôt total sera de la moitié, hein, 1000 euros, c'est la règle. Mm-hmm. 600 euros vous seront versés à partir d'aujourd'hui et les 400 euros restants dès la fin juillet.
Et donc si on a dépensé plus l'an dernier, eh bien on touchera plus, logique. Mais si on a dépensé moins, comment ça se passe ?
Alors déjà, vous empochez hein, ces 628 euros en moyenne, ça vous n'avez pas le choix, mais il faudra les rendre. Par exemple, votre enfant est entré à l'école l'an dernier, vous avez donc arrêté vos frais de garde que vous aviez en 2018, vous avez peut-être aussi diminué vos dons aux associations en 2019, bref, le montant de votre crédit d'impôt a baissé. Alors vous le direz au fisc, hein, ce sera dans votre déclaration d'impôt au printemps, et le trop perçu sera récupéré automatiquement par prélèvement cette fois-ci au mois de septembre.
On sait tout grâce à vous, merci Christophe Ponzio. Est-elle en train de devenir le sparadrap d'Emmanuel Macron? Ségolène Royal annonce dans Le Parisien qu'elle ne démissionnera pas de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Le Quai d'Orsay lui a pourtant adressé un courrier lui demandant en substance de faire ses cartons. Interrogé sur la question, Gérald Darmanin, tout à l'heure sur RTL, n'a pas voulu être critique. Il a simplement eu cette petite phrase en forme de pic. Je respecte les aînés. Fin de citation.
RTL Matin, 8h05.
La politique aux États-Unis, c'est le procès en destitution de Donald Trump qui devrait s'ouvrir mardi prochain.
Une procédure, vous le savez, rarissime. L'acte d'accusation contre le président américain doit être transmis tout à l'heure au Sénat.
Mais Donald Trump, soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien à des fins politiques intérieures, risque-t-il vraiment quelque chose ? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Donald Trump ne va pas être destitué.
Non, sauf élément nouveau, incontournable, il va être acquitté car les Républicains ont la majorité au Sénat. Alors il y a bien 3 ou 4 d'entre eux qui laissent planer un vague doute sur leur vote, mais il faudrait une majorité des 2/3, c'est improbable. En fait, on connaît la fin du film depuis le départ, donc l'important, c'est le scénario et les acteurs. Quel camp va être le plus convaincant pour l'opinion publique à moins de 10 mois de l'élection? C'est pour ça que la présidente de la Chambre, Pelosi, démocrate, a tenté un coup en attendant près d'un mois pour transmettre au Sénat les articles de mise en accusation votés à la Chambre, pour faire pression, obtenir qu'il y ait des collaborateurs de Trump appelés à témoigner. Pour l'instant, elle n'a pas réussi, donc des élus de la Chambre vont aller à pied ce soir, dans un cérémonial solennel, remettre au Sénat les 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et obstruction. Ce sera seulement la 3e fois de l'histoire. Et c'est mardi que devrait commencer le procès en tant que tel, mené par le président de la Cour suprême. Des élus de la Chambre vont être désignés comme procureurs. Les sénateurs seront les jurés. Ils pourront interroger l'accusation et la défense, donc les avocats qui représenteront le président Trump, qui lui sera devant sa télé.
Donc cette procédure va percuter les primaires démocrates, forcément.
Oui, puisqu'elle commence dans moins de 3 semaines. Et 2 des candidats les mieux placés sont sénateurs, Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Ils vont être retenus à Washington 6 jours par semaine pendant plusieurs semaines.
La question de 8h avec ce matin Philippe Corbet. Dans un instant, les effets inattendus du recensement. Restez avec nous.
RTL Matin 8h07. Ce week-end.
RTL Matin.
8h08, la suite de votre journal, Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et nous sommes donc un peu plus de 67 millions de Français.
L'INSEE vient de publier son tout dernier recensement. Les naissances baissent toujours, mais un peu moins qu'avant. Et on peut tirer, comme à chaque fois, 1000 conclusions de ces chiffres sur la société, sur l'évolution des mœurs. Mais le recensement sert surtout à organiser les collectivités locales, les communes. Faut-il ouvrir, par exemple, une nouvelle crèche, de nouvelles classes ou... Pour l'ouverture d'une pharmacie, sachez qu'il faut atteindre un certain seuil en termes de nombre d'habitants, 2500 exactement. Ça a été le cas tout récemment à Régus, dans le Var, Étienne Baudu.
C'est en 2018 que ce joli village du Verdon voit sa population franchir, selon l'INSEE, la barre fatidique est des 2500 habitants. La commune a dès lors suffisamment d'administrés pour ouvrir officiellement une pharmacie. Et le 1er octobre 2018, Fabienne Cador ouvre enfin son officine.
Je me souviens par exemple du premier jour. On a vu une vingtaine de personnes qui nous attendaient à 9h, c'était plein. Voilà.
J'ai été attendu un peu. Ouais.
Ah oui, comme le Messie, on va dire. Pendant une semaine, la pharmacie n'a pas désempli.
Mais il aura fallu pour Fabienne et la commune attendre 12 ans, déposer 22 demandes en tout, surmonter la multitude de recours formés par des confrères jaloux de la commune voisine. Un vrai parcours du combattant, en tout cas, se souvient Robert.
On a tous manifesté, on a tous fait des pétitions, les élus sont montés à Paris et tout. Ah, on peut dire que ça a été un combat. Gagnant, mais avec difficulté.
Car dans cette région isolée, explique l'un des 3 médecins de Régus, Ric Androisse, la norme des 2500 habitants est inadaptée.
Ça sautait aux yeux que la population a besoin d'un accès aux médicaments. Et faire un 30 km aller-retour, parfois pour les villages un peu plus éloignés, c'est un peu ridicule de les empêcher d'avoir leur pharmacie.
Et aujourd'hui, selon l'INSEE, le nombre d'habitants à Régus s'élève à 2616, très exactement.
Un reportage d'Étienne Baudu.
RTL Matin 8h10.
Le rallye Dakar, c'est donc jusqu'à vendredi.
Il aura traversé pour la première fois l'Arabie Saoudite qui s'est servi de cette course comme vitrine. Le royaume est en opération. Opération séduction, décision la plus emblématique du prince Mohamed Ben Salman, celle d'autoriser les femmes à prendre le volant. Mais sous le vernis, une réalité encore bien peu reluisante, en atteste le témoignage inédit que vous allez entendre à présent. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyée spéciale de RTL dans la région. Vous avez pu interviewer la sœur d'une jeune militante pour les droits des femmes qui est actuellement derrière les barreaux.
Oui, Loujaine Al-Atloul est en prison depuis mai 2018. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait que les femmes puissent notamment conduire, un droit qui leur a été accordé un mois plus tard. Mais pour Loujaine, cela n'a rien changé. Au début, sa famille, pour la protéger, n'a rien dit. Et puis quand ses parents ont enfin pu lui rendre visite à la fin de l'été 2018, ils se sont rendus compte que leur fille allait très très mal, qu'elle avait des traces rouges sur le corps, qu'elle tremblait, qu'elle arrivait à peine à tenir un verre. Il y a quelques jours, j'ai pu joindre sa jeune sœur Lina, qui vit à Bruxelles. Elle m'a raconté les tortures que sa sœur subit en prison.
Au tout début, ça avait commencé avec l'empêcher de dormir, la traumatiser en gros. Puis ils l'ont pris dans une prison non officielle. Et donc c'est vraiment une maison de torture. Et donc c'est là que les vraies tortures ont commencé. Donc elle se faisait électrocuter, elle se faisait battre, elle se faisait fouetter. Il y avait des simulacres de noyade. Ils l'ont aussi harcelée sexuellement, ils l'ont menacée de mort.
Comment va-t-elle aujourd'hui ?
Elle est en isolement depuis avril 2019, donc ça fait des mois qu'il n'y a plus aucune nouvelle de son procès, qu'elle se réveille le matin sans savoir ce qui va se passer. C'est vraiment difficile à supporter psychologiquement.
Parmi les hommes qui l'ont torturé, il y a donc l'ancien conseiller du prince et héritier Mohamed Bin Salman, qui est aussi impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul.
Oui, tout à fait. Donc Loujain l'a reconnu durant les séances de torture. C'est l'homme qui supervisait en gros la torture et qui en plus a été celui qui l'a harcelé sexuellement. Et il lui a même dit, il l'a menacé de viol et de meurtre. Il lui a dit que s'il le voulait, il pourrait la couper en morceaux, la jeter dans les égouts et que personne ne le saurait.
Elle est soutenue par de nombreuses ONG, les Nations Unies notamment. Votre frère a témoigné là-bas. Est-ce que vous pensez que le Dakar peut aider à sa libération ?
Je pense que tout événement en Arabie Saoudite peut aider à sa libération si les gens qui y participent en parlent. Donc il ne faut vraiment pas que ces événements soient une sorte de paillette pour cacher toutes les violations des droits humains en Arabie Saoudite. Donc effectivement, tous ces événements pourraient aider à la libération de ces femmes, mais il faudrait que les gens en parlent de ce qu'on voit. C'est que généralement, pendant ces événements-là, personne ne parle de ce qui se passe en Arabie Saoudite.
Et vous comptez sur le Dakar, justement, pour que un peu plus de personnes, et notamment les journalistes qui sont sur place, puissent en parler ?
Je les encourage à le faire, surtout, oui.
Voilà, témoignage de la sœur de Loujain Atloul, incarcérée depuis près de 2 ans à Djeddah. Elle a juste milité, je vous le rappelle, pour le droit de conduire. Témoignage RTL recueilli par Isabelle Langer. La jeune femme risque jusqu'à 20 ans de prison. Un mot de foot en bref. En Ligue 1, il y a 3 matchs en retard à suivre ce soir. Nîmes, Rennes et Amiens-Reims à 19h. Et puis à 21h, Monaco reçoit le PSG.
L'histoire du jour pour terminer.
La retraite pour Diego, la tortue géante des Galapagos qui a permis de sauver son espèce grâce à une sexualité très active. Il va pouvoir rejoindre son milieu naturel. Mission accomplie, 800 petits Diego ont vu le jour. À près de 130 ans, il va enfin pouvoir jouir d'une retraite bien méritée.
RTL Matin, 8h14. Mais oui, c'est...